One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Jacques.
Et je suis Benjamin Biolay.
Et je suis Sébastien Marnier.
Enfin, presque quoi.
La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping Pong, un premier coup de maître derrière la caméra, un musicien qui joue au cinéma et compose des films, et un artiste aussi multimédium qu'équanime.
Avec l'acteur et chanteur sensuel et ténébreux Benjamin Biolay, tour à tour solaire et ombrageux dans son dernier disque Palermo Hollywood, et qui possède et la fortune et le vice dans le film Irréprochable.
Et avec le réalisateur, scénariste et romancier Sébastien Marnier, qui a commis cet irréprochable premier long-métrage en salle le 6 juillet. On y retrouve sur le mode du thriller la violence sociale de sa série pour Arte, Salaire net et monde brut, mais aussi une Marina Foy, son héroïne musclée et dangereuse, qui a la complexité de ses personnages de roman. Sans oublier Benjamin Biolay donc, mais aussi Jérémy Elkaïm et Joséphine Japy.
Et avec Jacques, musicien transversal, adepte d'une techno bruitiste et synthétique, et qui pour tout, et qui pour qui, tout est magnifique. Et il va nous le prouver puisqu'il est à notre table avec ses outils pour un live en fin de partie.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Voilà, je t'appelle parce que je vais revenir dans la région. Est-ce que tu crois qu'à l'agence, il y aura du travail pour moi?
Vous habitez là-bas?
Non, je viens voir ma mère.
Quoi ces conneries? Dis-moi pourquoi t'es revenu.
J'ai plus d'appart. Là, j'ai plus que le RSA.
Je comprends pas comment t'hésites encore.
Je suis la personne idéale pour ce poste.
Tu sais que j'ai déjà trouvé quelqu'un.
Bonjour, monsieur Collet.
Bonjour, Audrey.
C'est une connerie d'avoir engagé cette fille, elle connaît rien. J'ai vu un appartement à louer. Je voudrais savoir si c'est possible de le visiter.
Je vous donne ma carte?
Pourquoi tu souris?
C'est marrant de vous voir ici.
Moi, à votre âge, j'aurais que d'une chose, c'est de partir. Agent immobilier ici, vous pouvez faire ça toute votre vie.
T'es pas clair, Constance. Laisse-la tranquille.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur?
Je peux pas revenir en arrière.
Irréprochable. En salle le 6 juillet, mercredi prochain, un film de Sébastien Marnier où Constance revient sur ses traces en province et lorgne sauvagement sur un job d'agent immobilier qui échoue à une jeune rivale pour lequel elle semble prête à tout. Sébastien Marnier, le synopsis, convoque des réminiscences du couperet de Westlake et de l'adaptation cinématographique de Costa Gavras, mais même si, et Mathilde le rappelait, la violence de la question du travail vous travaille dans un certain nombre de vos œuvres précédentes, dans Irréprochable, votre premier long métrage, il nous a semblé que c'était peut-être moins un drame social façon Frères Dardenne qu'un thriller amoureux. Moi, j'ai pensé à La peau douce de François Truffaut. Est-ce que, au fond, l'amour serait le lieu où vient se loger la plus grande violence, les vrais enjeux de vie ou de mort?
Oui, certainement. Je pense qu'en tous les cas, la question sociétale et du travail, elle est en sous-texte du film, elle est le point de départ du film, mais que le film glisse progressivement vers le portrait d'une femme puissante et aussi très angoissante et très dangereuse. Mais en tous les cas, j'avais envie justement que le film parte. On n'est pas non plus chez les Dardenne, évidemment, au début, mais sur un motif qu'on retrouve souvent dans le cinéma français, c'est-à-dire d'un retour au pays, en fait, d'un système presque classique de construction, et que progressivement le poison se distille progressivement vers pour emmener le film vers le genre et le suspense comme c'était pas prévu au programme.
Voilà. C'était prévu pour vous ou ça s'est imposé à vous? Non, c'est un jeu amoureux.
L'enjeu amoureux, alors préciser, parce que...
Il y a des tas d'histoires d'amour, elle est au centre de toute une constellation de désirs, Constance, et du coup la tension est très forte autour de cette question.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnages qui gravitent autour d'elle, et c'est aussi bien de l'amour que du désir. C'est quelqu'un qui est très fascinant. Donc, les gens n'ont pas forcément conscience du danger qu'elle a vraiment, qu'elle peut provoquer, mais c'est quelqu'un qui est fascinant parce qu'elle est aussi drôle, fantasque, intelligente, et les gens ne se doutent pas de ce qu'elle est prête à faire, mais c'est un personnage très romanesque, en fait, qui s'invente des rôles. C'est comme une actrice de cinéma, de toute façon.
Mais d'ailleurs, vous êtes romancier, on va y revenir, hein, à ce travail du personnage de Marina Foy, je le rappelle. Il y a aussi un petit peu de Gus Van Sant, To Die For, hein, cette Nicole Kidman, je sais pas, que vous aviez peut-être vu à l'époque, qui lui ressemble un peu.
Et on dit, c'est pour ton bien que tu ne pouvais pas faire de meilleurs choix. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens connaître à force. Soli sulla spiaggia, il cane addormentato accanto a te.
Vieni con me.
E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me.
Sur un air de Porchette Basse, Ressources humaines de Benjamin Biolay avec les chœurs de Melville Poupeau et Cara Mastroianni. Cet extrait de l'album que vous avez publié au printemps, Palermo Hollywood, vous y traitez de ceux qu'on dégage et qu'on n'entend pas. En réécoutant cette chanson, on a été frappé par sa correspondance avec le film de Sébastien Marnier, ou du moins le point de départ, cette violence sur les individus écartés du travail, ce monde où quelqu'un qui décroche un CDI vous donne des envies de meurtre. Au-delà de votre personnage de Gilles, amant un peu sauvage dans le film, Benjamin Biolay, quel regard social, vous l'impliquez, vous portez sur le film ?
Le regard, une vision à peu près pas identique à celle de cette chanson. J'ai l'impression que c'est des gens qu'on n'entend jamais, en fait. Que c'est des gens qui décrochent comme ça, qui sont dans une espèce de seuil d'indigence. Ce sont des gens qui n'ont pas la parole. Et c'est un des pires drames sociétal actuels, je trouve. Au-delà de l'histoire d'amour, les histoires d'amour, tout côté romanesque, c'est aussi ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, quoi. Ce personnage qui est complètement coincé, qui sent le sol se dérober sous ses pieds, c'est la chute sociale totale. Et après, elle a sa façon à elle d'essayer d'y remédier. Je conseille aux gens de pas faire comme elle, mais c'est un beau personnage, non seulement de femme, mais aussi de personnes en précarité, quoi, dans un. Et moi, je connais plein de gens à qui c'est arrivé, ce que je raconte dans cette chanson, ce que je raconte de manière très minimale, hein. Et je trouve que c'est des gens qu'on n'entend jamais, quoi.
Vous aviez évoqué à l'époque votre rapport avec les labels.
Non, moi, je me suis fait virer.
Comment vous avez mis à la porte, quoi.
Oui, voilà. Et je l'avais déjà très mal vécu, tout en étant bien conscient que j'étais jeune et que j'avais quand même, si je travaillais et que je me reprenais en main, de l'avenir. Mais quand ça vous arrive à 54 ans, quand vous travaillez à. Je sais pas où, chez Casto, j'en sais rien. Enfin, on va pas faire de pub, surtout pour les plans sociaux. Ouais. Mais, eh bien, ça doit être terrible de pas pouvoir. Puis vous voyez tout qui se dérobe, quoi. Les rapports familiaux qui se délitent, on annule les vacances, enfin bon, bref, c'est un drame contemporain.
Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que ce drame contemporain, par, on va dire, la narration cinématographique qui lui est proposée, il est peut-être plus audible que dans d'autres cinémas ou dans d'autres tribunes?
Beaucoup plus audible, parce que je pense que les gens peuvent s'identifier à Constance dans un certain degré. Il y a un moment, ils vont se dire, bon, en fait, peut-être elle est légèrement sociopathe. Mais c'est vraiment, c'est vous, c'est moi, ce personnage, quoi. Il n'y a pas de cliché de la précarisation dans ce personnage quand on le voit, quoi. C'est une jeune femme jolie, drôle, éduquée, etc. Et donc c'est ça que je trouve très touchant. C'est vraiment réel, quoi.
Et Benjamin Biolay, votre personnage, je le disais tout à l'heure en ouverture, qui a à la fois la fortune et le vice, il incarne une
ça
sorte...
Ça va souvent ensemble, hein.
Absolument, et là, on y va carrément dans le scénario de Sébastien Marnier et votre personnage de Gilles. Précisément, là, vous êtes aussi à l'affiche d'un autre film qui s'appelle Vicky, et vous dites que dans Vicky, vous incarnez une imitation à chier de vous-même. Ouais. C'est quelle imitation de vous-même que vous avez incarné dans ce film de Sébastien Marnier, Irréprochable?
Ah non, je me suis éloigné tellement de moi que je m'y suis retrouvé dans le film de Sébastien. Non, vraiment, c'est un expert comptable du 16e arrondissement.
Tu m'en as beaucoup voulu.
Lacoste, je connais même pas, moi, dans la vie, quoi. C'est Et j'ai trouvé ça fantastique de s'éloigner autant de soi, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma. C'est ce que j'ai aimé dans ce film. Vraiment, il n'y a rien de moi dans ce personnage.
Vous, Sébastien Marnier, vous avez peut-être fait quelque chose à Marina Foïs qui est proche d'elle. En tout cas, vous avez décidé de vous concentrer sur son corps. C'est rare au cinéma, sans qu'on soit dans Million Dollar Baby, de se concentrer à ce point-là sur le corps musclé de la femme, de la viriliser comme ça au fur et à mesure des séquences. Est-ce que voilà, c'était vraiment un parti pris aussi de raconter le personnage de Marina Foïs par ce corps qui se muscle et s'entraîne au combat social?
Complètement, ça c'est tout le travail qu'on a fait en amont avec Marina. En fait, moi je voulais que le personnage de Constance ait un rapport au corps très excessif, donc aussi bien effectivement dans sa sexualité avec le personnage de Gilles que dans son rapport au sport. C'est quelqu'un qui a besoin, grâce à son corps, de ressentir des choses, parce que dans sa vie il se passe plus rien, donc elle a besoin de vivre des émotions fortes et intenses. Après, c'est vrai que avec Marina, donc elle a beaucoup travaillé pendant 3 mois d'entraînement de physique, mais c'est aussi pour ça que j'avais été la chercher. Moi, la première version du scénario, toute première version avant que je lui fasse lire, évidemment, c'était écrit pour un homme. Et en fait, du coup, je me suis dit, voilà, que c'était pas si intéressant que ça. Mais du coup, il reste des bribes, évidemment, de ça. Et le rapport au sport, je ne sais même pas si je l'aurais pensé, en fait, en écrivant pour une femme dès le départ. Mais du coup, j'avais envie, justement, Marina, elle a beaucoup de choses assez uniques quand même comme actrice, aussi bien d'être belle et très sexy et en même temps d'avoir effectivement ce rapport, enfin un corps très viril aussi, très combattante, très guerrière, et puis aussi de pouvoir faire de cette Constance un personnage quand même qui nous touche. Et donc Marina a ce truc très tragique et en même temps ce tempo de la comédie qui la rend fascinante, justement parce qu'elle oscille entre plein d'émotions différentes.
Hilarante et inquiétante, hein, vous dites.
Ouais, c'est ça.
Et ça passe en effet par son accent, par sa diction qui change selon les séquences, selon les plans, selon les moments, les épisodes du film. Vous avez pu dire en interview qu'en effet elle avait quelque chose d'un sociopathe. Au début, elle apparaît un peu féline, instinctive. Elle prend le soleil, par moments elle attend de fondre sur sa proie. Et il y a un moment quand cette rivale qui est incarnée de façon aussi tout à fait solaire par Joséphine Japy lui dit mais tu devrais faire l'armée de terre, alors qu'elles courent toutes les deux. Il m'a semblé que Marina Foïs était peut-être une sorte de guerrière sans armure. Il y a quelque chose de ça pour vous aussi?
Oui, parce oui, complètement.
Il y a cette fragilité.
Bah, complètement. C'est un personnage qui est quand même en train de s'effondrer. Donc, elle se donne des forces, pas forcément de la bonne manière, mais c'est-à-dire que moi, justement, dans l'entraînement que je lui ai fait faire, ce que j'avais écrit comme personnage, c'est une femme qui fait un entraînement à fond, mais un entraînement qui ne sert à rien. C'est-à-dire que tout ce que je lui ai fait faire, c'est-à-dire j'ai dû couper beaucoup de choses dans le film, on a beaucoup voulu sur ça parce qu'elle faisait beaucoup beaucoup de pompes et vraiment c'était très impressionnant.
Mais elle fait des pompes sur une main, enfin c'est...
Non mais elle le fait, et la première journée de tournage, on était très heureux parce qu'elle, enfin, même elle était très fière puisqu'elle avait fait 25 pompes d'affilée sur 4 prises d'affilée quoi. Donc bon, ça je les ai malheureusement coupées, mais c'est vrai que... Mais ça, c'est
il y a du sadique en tout réalisateur.
Moi, juste avant de jouer, je faisais un salto arrière dans la scène d'amour, il m'a coupé.
Ouais, j'ai tout coupé. C'est vrai, mais bon, j'ai gardé l'essentiel, c'est ça qui compte. Ouais,
enfin, moi, j'ai bossé pour ça. Ça rend pas compte.
Mais il est très physique, votre rôle aussi, Benjamin Violet.
Je me suis pas entraîné pour...
J'aime Anita. Je l'aime avec la même pitié que ma petite fille, parce que je sais qu'entre toutes les autres, elle est réellement, misérablement, une petite fille elle-même.
Ça caille.
Et les balades, ça se fait silencieusement.
Je vous assure qu'il ne m'est pas venu une seconde à l'idée de l'abandonner, de la laisser enfermée derrière les barreaux, de la laisser souffrir seule.
Hé, attends, attends! Mais, vous appelez comment?
Nicolas.
Nico? Nico?
Tu me gâches ma balade.
Bon, moi, c'est pareil.
Putain, Anna, t'es où? La chante, c'est ta mère, ton père, ta tante, ta grand-mère, ton grand-oncle. J'ai mis des amandes dans du tulle et pas dans une langue que je comprends pas. Faut que tu te rappliques vite, sinon je vais devenir hyper nerveux. Hyper nerveux.
Je suis bien dans le rythme, là.
Ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, tu la fasses toute seule, la balade.
Hein?
Qu'est-ce qui te fait peur? Tu continues, moi, je te rejoins à la fin.
Mais je fais comment? Je vais pousser la barbe, je mets un vieux pull tout pourri avec un jogging tout pourrave.
Fous-toi de ma gueule.
Moi, j'ai toujours été avec quelqu'un, jamais été seule de toute ma vie. Alors la seule chose que je vous demande, c'est m'apprendre à être comme vous, quoi.
Personne ne veut être comme moi.
Personne.
D'accord, personne.
Voilà, personne.
Manipulateur dans La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Joanne Sfar, Ermite Bougon dans Gabi Bidol de Sophie Le Tourneur, Futur marié infidèle dans Pourquoi tu pleures de Katia Lekovic. Ça fait une vingtaine de films déjà en 10 ans pour vous, Benjamin Biolay. On s'est baladé par la grâce des ciseaux de notre réalisateur Thomas Beau dans cette filmographie qui dialogue avec elle-même, dans votre rapport avec les femmes aussi au fil de ces films. Vous dites qu'avec Sébastien Marnier dans Irréprochable, vous vous éloignez de vous et que c'est un plaisir. Est-ce qu'au fond, tous ces films depuis une dizaine d'années, ils n'étaient pas, pour chaque réalisateur et réalisatrice, une version de leur Biolay
qu'ils proposaient. Soit d'un anti-Biolay, soit de la façon dont tu me voyais. Le film de Le Tourneur, elle a voulu tracher un chanteur, quoi. Lui met une vieille barbe toute pourrie, le jogging le plus immonde de tous les temps, un t-shirt Salon Mondial du Diabète, Versailles 92, que j'ai tout le long du film, quand même. C'est Sophie, elle se fait plaisir, ouais. Ça me fait rire.
Et dans quelle de ces versions de Biolay vous avez le plus aimé être dirigé, on va dire?
Non,
Qu'est-ce que ça vous a révélé?
Non, j'aime faire ça, je trouve ça agréable.
C'est une petite thérapie.
Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Comme
on va sur toi-même.
Jacques,
ouais,
c'est le psychanalyste. Hein.
Ouais.
Ouais, Jacques, ouais, c'est le psychanalyste, très bien.
C'est quoi le film qui t'a fait la plus grande thérapie? Le rôle qui t'a le plus éloigné ou rapproché de toi?
Non,
rapproche-toi en t'éloignant de toi.
Je saurais pas dire. C'est encore trop, c'est tout frais pour moi de faire du cinéma, en fait. C'est encore des émotions de débutant. Parce que par rapport à la musique, je fais ça depuis vraiment très peu de temps, en fait, quoi. Donc, et je m'attendais pas à faire un nouveau truc dans la vie. Donc, j'ai encore des émotions de puceau.
Et vous avez l'impression, au bout d'une vingtaine de films, quand même, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un changement dans cette relation. Parce que,
un puceau du cinéma
qui a 20 films à son actif en 10 ans, c'est assez rare, quand même.
Oui, mais c'est des petits rôles, et des rôles fantastiques d'ailleurs, mais j'aime ça, les petits rôles. Non, mais là, ça change, je sens que c'est quelque chose qui est en train de prendre corps.
Tu sens qu'il y a un rôle principal qui va arriver un jour ou pas?
Ah bah, il y a eu Sang-froid quand même.
Ouais, que j'adore, mais c'est finalement, c'est pas tellement le... C'est comme ça que je verrais les choses, quoi. C'est comme le rôle principal, c'est vraiment... C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Parce que prendre un rôle principal, pour prendre un rôle principal, je pense que c'est pas une bonne idée. Et parfois, il y a des rôles principaux qui sont... Le rôle principal est un grand faire-valoir pour tous les second rôles dans certains films. Et c'est... Mais ça me plairait, bien sûr.
Il y a un très beau rôle principal pour Marina Foïs, donc dans Irréprochable, Sébastien Marnier. Mais on dit de vous, en tant que musicien, c'est le critique musical Bertrand Dical, je crois qu'il dit ça, Benjamin Biolay, que vous êtes un perfectionniste amateur d'accidents. Il y a eu des accidents sur le tournage d'Irréprochable, dans votre rôle donc d'amant, de maître.
Je crois pas qu'il y a pas eu d'accident, mais moi, il m'a vraiment surpris, en fait.
Sébastien Marnier, qui réalise et qui écrit.
Et oui, et voilà, c'est moi. Et du coup, en fait, oui, Benjamin, en fait, on avait évidemment parlé du rôle et de ce que je voulais avant le film et tout ça. Et Benjamin est arrivé vraiment sur les 10 derniers jours de tournage. Et en fait, j'ai été assez surpris justement par les propositions aussi qu'il m'a fait sur. J'aime justement le rythme qu'a Benjamin, même quand il parle, le timbre de sa voix, évidemment, quoi. Mais et du coup, c'est marrant. Enfin, il y a vraiment des scènes dans le film que je peux pas révéler, qui sont un peu à la fin du film, mais où le personnage qu'il incarne, Gilles, découvre des choses stupéfiantes. Et j'aurais pensé vraiment de manière, un cliché, que ça aurait été une scène d'hystérie, peut-être. Et Benjamin l'a proposé tout de suite comme quelque chose de très... très calme, en fait, malgré la sidération que le personnage a. Et en fait, on a vraiment tourné autour de ça. Et Benjamin, c'est ça qui est bien. Il est instinctif. Enfin, quand tu dis que t'es encore puceau, mais pour le rôle, je trouve que c'est pas vraiment ça. Mais il y a quelque chose comme ça.
Ah bah oui, parce qu'il y a des scènes de sexualité sauvage qui sont loin du débutant. Quoi.
Sauvage.
Oh non, pas sauvage.
Mais c'est le retour.
Un peu direct. Un peu. Je t'enlève ton slip, on va dire.
Et c'était quand même très spécial parce que Benjamin est arrivé. Donc comme je disais,
j'avoue que c'était très spécial.
C'était spécial parce que c'était notre première matinée de tournage ensemble. Donc il est arrivé.
C'est sympa d'avoir inscrit ça sur le calendrier de tournage.
On pouvait pas faire autrement.
Je pense que pour une fois, c'est pas un pervers qui se cache. C'est vraiment le plan de travail qui faisait que, par rapport au décor, les acteurs, c'était vraiment, fallait commencer par ça.
J'ai réussi à lui faire croire, mais c'est vrai.
Non, j'ai enquêté derrière.
Moi, je voudrais justement entendre Jacques sur cette idée de personnage, parce que là, la personne qu'on a devant nous, c'est Jacques, celui que vous avez construit, celui que vous avez décidé d'être pour l'instant. Après, il y aura peut-être un autre personnage. Vous dites qu'au début, quand vous êtes rasé les cheveux au milieu, parce que les auditeurs ne voient pas, Jacques est rasé un peu à la manière d'un moine, mais en fait, totalement dans le centre de sa tête. Et vous dites que voilà.
C'est un film, il y a un personnage qui se fait.
C'est un taxi driver à l'inverse, un peu, non? Non,
ouais, un peu.
Le nom de la rose. On m'a dit ça.
Non, ça c'est cliché. C'est chaussé au moine pendant qu'on y est.
J'ai l'habitude, hein, ça ne me dérange pas.
Mais Jacques,
ça me dérange plus.
Vous dites qu'au début, vous avez fait ça en disant Nick et que les gens ont voulu croire à une démarche artistique, ont recomposé tout un tas de choses autour.
C'est vrai que c'est rigolo, ouais. C'est rigolo de voir comment quelque chose qui était purement aléatoire, je me suis juste rasé un jour en commençant par le milieu et j'ai trouvé ça rigolo et puis finalement, j'y suis retourné, quoi. Quelque chose qui arrivait un peu au hasard. Peut après se transformer en une démarche hyper consciente et hyper volontaire et les gens en fait présument que c'est intentionnel et présument que je joue quelque chose et ça en fait ça m'invite à jouer ce rôle qu'ils ont envie de voir donc c'est quelque chose que maintenant je fais et j'essaie de pas m'y perdre tu vois et
c'est oui, pour parce ça que c'est le piège fatal dans la
musique. Oui c'est ça bah, c'est dans la musique c'est
les gens ont tellement envie qu'on soit un personnage que si on se met à le devenir on peut se
c'est ça ouais et c'est rigolo parce que quand t'es acteur on te demande de jouer un personnage, donc tu joues de toute façon un personnage, et on n'est jamais amené à te poser la question, est-ce que là tu faisais semblant? Parce que oui, je faisais semblant. Sauf que là, eh ben, tu joues ton truc, en fait, tu réponds à une demande en même temps, et puis bah au fur et à mesure, moi je m'y fais quoi, ça me va.
Et puis une case vide.
Ouais voilà. Et puis je me dis aussi c'est un métier tu vois. Et donc c'est assez c'est un rôle. Je préfère ça plutôt que d'aller faire un petit boulot. Tu vois,
qui va pas me plaire. Pour ne pas répondre, voilà.
Qu'on fout, plus qu'on n'a pas le droit de.
Mais finalement, je suis assez à l'aise avec le personnage que je me suis donné. Et j'ai l'impression que de toute façon, même dans ma vie privée, j'ai l'impression que tout le monde joue un personnage. Donc, autant l'assumer. Voilà.
On vous entendra tout à l'heure dans le personnage de Jacques en live and direct pour Ping Pong, mais justement puisqu'on est sur ces musiciens qui sont des acteurs, on est aussi sur des musiciens qui sont des réalisateurs potentiels parce que quand on écoute votre album Palermo Hollywood, Benjamin Biolay, vous l'avez assumé, d'ailleurs vous faites une ouverture à la Ennio Morricone, il y a une sorte aussi de présence un peu Mélodie Nelsonienne qui était déjà cinématographique de Vanier encore plus que Gainsbourg, donc c'était...
Comme vous y allez, c'est les deux.
Oui, les deux. Pardon. De temps en temps, comme ça, on refait l'histoire musicale. Pourquoi pas? Mais vous aviez désigné ça comme des pérégrinations dans Buenos Aires. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a cette idée aussi de composer des films qu'on fait en album.
C'est ça qui est merveilleux. C'est de la musique. On peut s'inventer un personnage, s'inventer un rôle, s'inventer plusieurs rôles, se faire un film imaginaire et tout. C'est pour ça qu'on. J'ai toujours l'impression d'être un enfant de 14 ans quand je m'enferme avec ma guitare, mes ordi, mes trucs. Je refais le truc que j'ai toujours aimé le plus faire au monde, dans ma chambre, à la fois imperméable à tout, mais sans si... Je dirais qu'on est perméable à tout, mais sensible à rien, en fait, voilà. On prend tout, mais en vérité, on reste d'un bloc, on bouge pas, c'est quelque chose d'assez immuable, le musicien qu'on est. Après, on peut lui donner l'apparence qu'on veut. C'est ça aussi qui est assez formidable, je trouve.
Il y a un personnage, Sébastien Marnier, de votre film, qui est la musique, justement, que vous avez confiée à Zombie, après les avoir découverts, habitant, habillant, investissant, travestissant le cinéma de John Carpenter. La revisitation donc du thème principal du film de John Carpenter, Escape from LA, par le groupe Zombie, qui signe aussi le score, la musique originale de votre nouveau film, votre premier long métrage, Sébastien Marnier, Irréprochable. Quelle était l'importance et je dirais même la Stimmung, l'atmosphère que les Zombies ont apporté, puisque Benjamin Biolay aime parler du rapport entre le son et la météo.
Alors,
C'est vrai.
Ah bon, mm-hmm. Tu m'en parleras. Mais non, mais en fait, je pense que, enfin, moi, j'ai considéré le film, même si c'est pas vraiment un film de genre, en tous les cas, que toutes les composantes de la direction artistique donnent à ressentir ce qu'est ce personnage et ce qui vit à l'intérieur, aussi bien effectivement par sa coupe de cheveux, elle aussi improbable, que ses tenues et
ta
du
coupe
coup,
de cheveux, elle est pas mal non plus là.
De quoi?
Je te regarde de profil, ta coupe de cheveux. Ah, est
oui.
Pas
oui, Sébastien Marnier a la coupe de cheveux inverse.
Ah, ouais.
Globalement, on a un
Une capillarité complète.
Il y a un plateau capillaire qui est très intéressant.
Moi, je suis très jaloux parce que
Benjamin Violet se recoiffe.
Je fais quelque chose parce que du coup, j'ai le front qui pousse, donc j'essaie de trouver des astuces de rabattre une mèche sur l'autre.
Mais je tire mon front.
Ouais. Du coup, c'est vrai que la musique
nous fait dresser les cheveux sur la tête, disons-le, hein, ouais, l'occasion. Voilà. Zombie.
Et de quelque chose d'assez atmosphérique. Moi, j'adore la musique, mais en même temps, je n'en fais pas. Et du coup, j'y connais rien. Donc, j'aurais demandé de manière très, très basique, en fait, d'avoir un thème pour Constance et puis un thème aussi pour le personnage de Philippe. Et donc, basiquement, moi, j'ai demandé à ce que le personnage de Constance soit sur vraiment une musique électronique, atmosphérique et assez rythmée. Et puis, que le thème de Jérémy soit quand même...
Jérémy Elkaïm, donc.
Oui, pardon.
Philippe, un ex.
Un ex de que retrouve Constance. Et voilà, ça, j'ai demandé. Par contre, je voulais quand même des vrais instruments pour sa partition à lui, en plus des nappes, avec des vents, en fait... Des clarinettes et des saxos, puisque c'est une spécialité de ce groupe aussi. Et voilà, donc on a créé... moi, j'ai demandé, en gros, je voudrais une musique à la Pierre et le Loup, c'est-à-dire que chaque personnage ait son instrument, basiquement. Mais après, évidemment, que la musique qui les ont créés donne une atmosphère et une tension au film progressive et surtout une profonde mélancolie aussi. 1, 2, 3...
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, elle aussi, aime Pierre et le Loup et le hautbois mélancolique.
À suivre, il sera question encore plus de musique sur ce plateau, notamment avec un live de Jacques, Benjamin Biolay, Sébastien Marnier, toujours avec nous. On interrogera la spontanéité et la posteriori.
Et tout de suite, eh bien, on va interroger l'actualité la plus brutale dans le monde de la culture. Avec vous, Zoé Sfès, bonsoir.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
C'est sauvage ce soir.
Absolument, puisque...
C'est terriblement sauvage.
Votre dossier est consacré au combat qui fait rage autour de l'ancienne maison de l'écrivain américain James Baldwin, qui a vécu 17 ans à Saint-Paul-de-Vence avant d'y mourir dans une petite villa. Et alors qu'il souhaitait que cette maison devienne après sa mort un lieu d'accueil pour les artistes américains, elle a été rachetée par un promoteur qui a commencé à la détruire. Et plusieurs artistes américains francophiles se sont mobilisés pour la sauver. Et même l'une d'entre elles a été jusqu'à la squatter.
Oui, alors l'affaire a pris une tournure quand même un peu plus dure ces derniers jours, je vais vous raconter tout ça, mais revenons aux sources. Donc James Baldwin, on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps dans cette émission, avec une émission spéciale avec Jake Lamar et Raoul Peck. C'est une figure iconique aux États-Unis, par peut-être moins connue en France. Rappelons-le, noir, homosexuel, très pauvre, né à Harlem, James Baldwin choisit dans les années 40 de s'exiler. Il trouve refuge notamment tout au long de sa vie en France. Il parvient à y écrire quelques-uns des essais qui feront de lui l'un des intellectuels les plus déterminants dans le mouvement des droits civiques. Il s'y installe définitivement dans les années 70 à Saint-Paul-de-Vence. C'est là, dans cette maison, qu'il va rédiger quelques-uns de ses plus grands ouvrages de fiction, La Conversation, La Chambre de Giovanni, Un autre pays. C'est là qu'il meurt, après avoir reçu de la main de François Mitterrand la Légion d'honneur. Mais sa maison est récupérée par une ancienne amie, femme de ménage, qui va finalement la garder avant de l'abandonner. Elle est l'objet de tous les combats depuis quelques années, nous explique Shannon Kane. C'est une ancienne fundraiser, donc une femme qui trouvait de l'argent pour des associations caritatives aux États-Unis. Elle s'est installée en France, justement, elle aussi, pour écrire, et elle est très engagée, on va le voir, dans la préservation de cette maison.
James Baldwin a quitté les États-Unis dans 1948. Pour lui, c'était impossible de décrire son vérité aux États-Unis comme un homme noir à Harlem. Alors, il est venu en France. Il a passé quelques ans à Paris et aussi en Algérie. Mais enfin, en 1970, il est venu en Saint-Paul-de-Vence pour vivre. Il a acheté et loué. C'est compliqué, la relation entre lui et son propriétaire. Ils étaient amis. Il a écrit beaucoup de livres ici, dans cette maison. C'était un endroit très, très important. Et la chose qui est très intéressante, c'est que ici à Saint-Paul-de-Vence, c'est un petit village qui accueille 2 millions de touristes chaque an. Il n'y a aucune trace de un des plus importants intellectuels dans les années 60 aux États-Unis pour les droits civiques. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Il est quasi disparu ici. Mais aux États-Unis, non. Il est très, très important. toujours aux États-Unis.
Cette absence de traces de Baldwin à Saint-Paul-de-Vence, Zoé, apparaît comme une aberration pour les Américains.
Oui, alors d'autant plus que James Baldwin connaît vraiment une deuxième vie aux États-Unis, non pas qu'il en ait, il en ait fini une, mais en plus, à l'aune du mouvement Black Lives Matter, vraiment, son œuvre est lue, relue, totalement réinvestie par tout un champ de la population, beaucoup plus vaste d'ailleurs. Il est dans beaucoup de programmes, dans beaucoup d'universités. En plus, James Baldwin a reçu énormément d'artistes iconiques quand il vivait, de passage en France, qui cherchait un autre mode de vie, un autre mode de relation avec les Blancs, notamment Miles Davis, Nina Simone, etc. Que cette maison, James Baldwin, oui, suitait lui-même, eh bien, en faire une retraite, une espèce d'asile, en tout cas un symbole pour accueillir artistes américains, mais aussi homosexuels. Rappelons qu'il y a aussi l'association LGBT de Saint-Paul-de-Vence qui tient à ce que cette maison ne soit pas détruite. Et que, eh bien, en tout cas, c'est assez étrange, cette espèce de manque de présence de lui, alors que partout en France, on va célébrer la présence d'Hemingway, de Gertrude Stein, et que d'ailleurs, dans la région, on peut visiter la maison de Josephine Baker, qui est quand même beaucoup moins importante au regard de la vie des idées, nous explique l'auteur franco-américain Jay Clamart. Lui aussi, comme par exemple Toni Morrison, dernier prix Nobel américain encore en vie, soutient clairement ce projet.
Il a dû échapper le racisme quotidien des États-Unis pour devenir écrivain. Et donc, pendant toute sa vie, il était souvent en France. Il est mort à Saint-Paul-de-Vence. Je pense que ça serait une bonne chose pour la France et pour les Américains qui adorent la France. Oui, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas des traces de lui. Il était une figure très importante historiquement dans la littérature, dans la politique. Il a écrit beaucoup sur son affection pour la France. Donc je pense que c'est un grand dommage s'il n'y a pas de traces de lui, surtout cette maison où il est mort en 87, je pense.
Et les choses se sont accélérées ces derniers mois, Zoé.
Oui, puisque le promoteur qui a donc racheté la parcelle a obtenu un permis de construire et donc il a commencé par détruire une partie de la maison. Ne subsiste aujourd'hui qu'un corps de ferme, le corps principal finalement où il a vécu, Baldwin. Les travaux devaient commencer et donc Shannon Kane a décidé de prendre les choses en main. Elle a décidé d'aller squatter dans la maison avant que les travaux commencent pour essayer de bénéficier de la loi des squatteurs qui protège en tout cas le fait de vivre dans une maison quand on y est depuis plus de 48 heures. Malheureusement, ça a tourné court cette nuit puisque le promoteur qui n'avait pas beaucoup aimé ça, lui a envoyé des maîtres chiens et a commencé à murer les entrées de la maison pour qu'elle en sorte. Elle est donc maintenant dans un hôtel qui est juste en face de la maison. Elle considère néanmoins que cette action n'est pas un échec et qu'il faut quand même se mobiliser.
Le promoteur, lui, il veut construire 18 appartements de luxe avec un parking au-dessus et une piscine. Et c'est un bâtiment, franchement, c'est moche. Il y a 9 jours, j'ai décidé de squatter la maison. Je me suis réveillée en pleine nuit avec un sentiment très très fort qu'il faut être là, qu'il faut protéger cette maison, il faut prendre les photos, il faut que la lumière soit sur cette maison. Aujourd'hui, je vois cette action comme un succès. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crée une organisation. On a commencé notre crowdfunding. On a eu des dons, plus que 100 dons dans 2 jours. On a eu un nouvel don chaque 11 minutes. Comme leveur de fonds toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.
Voilà, effectivement. Donc, ils ont levé des fonds, donc cette association lancée notamment par Shannon Kane, avec évidemment donc le soutien de Toni Morrison aussi. Appel de fonds qui est extrêmement, extrêmement suivi aux États-Unis. Le but, c'est pour le moment d'essayer de faire arrêter, de faire annuler ce permis de construire. Shannon Kane indique qu'elle a des contacts politiques et que ça pourrait fonctionner et de racheter la parcelle pour pouvoir en faire un centre d'art à faire à suivre donc cet été.
Place aux brèves, Zoé, et c'est le cinéma espagnol qui va mobiliser cette fois.
Ciné España, le plus important festival de cinéma espagnol d'Europe hors Espagne, qui a lieu à Toulouse, a lancé une campagne de financement participatif, là aussi ça s'appelle crowdfunding, afin de pallier la forte baisse des subventions qui, je cite, menace l'existence même de ces rencontres toulousaines, puisque en un an, eh bien, le festival a perdu près de 30 000 euros. En attendant de trouver de nouveaux mécènes pour 2017, nous avons besoin de votre soutien, écrivent les organisateurs. Un appel qui vise à récolter 20 000 euros d'ici le 13 juillet, afin notamment d'assurer le financement de tous les sous-titrages des films qui vont être montrés cet été, des frais d'invitation des cinéastes espagnols qui seront venus présenter leurs films.
Le président de la région PACA, Christian Estrosi, se pose comme un garant de la liberté artistique et promet de soutenir la culture en lançant une conférence régionale annuelle du secteur.
Il concrétise là une promesse formulée pendant la campagne des régionales où il avait affronté Marion Maréchal Le Pen au second tour et où tous s'étaient inquiétés du rapport à la culture de ces deux candidats. Il avait alors donné des gages. Il a réuni donc à Marseille quelques 200 membres de cette conférence régionale permanente, 20 personnalités dont plusieurs marquées clairement à gauche, comme par exemple Charles Belling, mais aussi Olivier Py ou Françoise Nyssen, la directrice d'Actes Sud, eh bien, siégeront au comité de cette conférence qui se réunira une fois par an, qui est chargé d'éclairer les décisions de la région en matière de culture. Vous êtes là pour nous dire à nous, responsables politiques, ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, indique Christian Estrosi, qui a aussi rappelé qu'il avait sanctuarisé le budget de la culture à la région.
On se souvient de l'affaire de la Friche Belle de Mai, hein, et de ses expositions qui avaient choqué les pudibonds. Le CSA modifie son mode de comptage de temps de parole des politiques dans les médias.
Et oui, pour contrôler le pluralisme dans la campagne présidentielle, le CSA a décidé d'élargir ses critères. Outre leur temps de parole, donc, il intégrera tout sujet, chronique, éditorial, débat, analyse ou revue de presse qui les citera, sauf si la séquence lui est clairement défavorable. C'est une réponse au problème posé notamment par le Front National, qui se plaint systématiquement de ne pas être assez présent dans les médias, alors qu'il est très visible dans les commentaires des analystes ou dans les éditoriaux.
Merci Zoé, je vous retrouve demain, tout simplement. On va passer à un petit élément sonore qui va vous donner envie d'écouter la suite de Ping Pong.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong, c'est sur France Culture.
C'est magnifique puisque nous sommes de retour en direct avec nos trois invités Sébastien Marnier et Benjamin Violet pour le film dans lequel ils sont complices, Irréprochable, mais aussi avec Jacques dont Tout est magnifique. Et bien c'est le titre de non seulement de ce morceau que nous écoutons à présent, mais aussi de l'EP que vous avez signé sous le label Pain Surprise au printemps dernier. On est avec votre musique à la fois dans des sons synthétiques et naturels, dans des bruits, dans une sorte de ballet mécanique, comme disait jadis Georges Anteil. On est aussi proche de Luigi Russolo, je peux pas m'empêcher de le citer, un des pères de la musique bruitiste au début du XXe siècle, qui déclarait « la différence vraie et fondamentale entre le son et le bruit se réduit uniquement à ceci ». Le bruit est bien plus riche de sons harmoniques que ne l'est généralement le son. Benjamin Biolay préfère, je le disais, les métaphores climatiques ou lumineuses. Et vous aimez parler, Benjamin Biolay, du rapport entre le son et la lumière, les ombres et les éclaircies. Vous, vous peignez quel genre de paysage avec tous ces sons, Jacques?
Je fais des natures mortes, complètement des agglomérats de bruits que je rencontre dans ma propre vie, quoi. Donc je suis en capture constante et je les passe dans ma machine, dans mon cerveau et dans mon ordinateur, ces deux alliés, pour produire une musique qui est un peu le témoignage d'une recherche entre l'ordre et le désordre. Du coup, je dirais, je pose la question, où se trouve la différence entre un objet et un instrument, entre la musique et le bruit, et du coup entre le jour et la nuit, à quel moment c'est la nuit, tu vois, à quel moment on peut plus distinguer, je sais pas, un t-shirt blanc d'un t-shirt noir.
C'est important pendant le Ramadan, rappelons-le.
Voilà. Oui, bah oui, il se pose cette question. Donc c'est ça, et c'est comment on passe de l'un à l'autre, comment, culturellement en fait, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est naturel, est-ce qu'il y a des sons qui sont objectivement laid ou désagréable en tout cas, et est-ce que c'est pas qu'une question de contexte, et quel contexte peut rendre le son le plus désagréable agréable?
Benjamin Biolay, vous, c'était pas Tout est magnifique, c'était la superbe.
Non, mais tout ce qu'il dit là, j'aime tout ce qu'il vient de dire, vraiment.
C'est-à-dire, pour vous aussi, c'est une histoire de contexte, cette utilisation du beau ou du laid.
Bien sûr. Et même on s'en rend compte dans la vie, il y a des sons qu'on déteste quand on est jeune, et en vieillissant on les tolère, et puis là, selon le contexte ils deviennent carrément formidables, etc. Donc je suis totalement d'accord, j'aurais pas pu le dire aussi bien. D'ailleurs je vais réécouter l'interview, je vais tout noter.
C'est vrai que vous aviez fait un pont entre votre travail musical et la peinture, que vous y voyez les cordes comme quelque chose qui viennent soudainement éclaircir le ciel,
ouais, ou l'assombrir, ou comme des turbulences, ouais, des choses comme ça, ouais.
Comment est-ce que justement vous puisez les sons aujourd'hui? C'est-à-dire que Jacques, il va glaner sur les réseaux, sur Internet, des choses que les gens produisent. Il y a cette tradition brutiste. Vous, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous nourrissez, quand vous vous enfermez, comme vous dites, tout seul comme un con en Belgique parfois, pour enregistrer?
Eh bien, ouais, non, je cherche des choses comme ça. Ouais, je recherche à retrouver l'effet que me fait une photographie, ou l'effet que m'a fait tel film, ou l'effet que me fait tel souvenir, ou... Quels sont les sons pour décrire la nuit, même quand on fait que de la chanson, c'est pas les mêmes instruments. Quoi. Quand on, c'est une question de contexte, c'est une question de d'instinct aussi. Donc c'est très très particulier.
Vous avez tous les deux un rapport avec la spontanéité qui est assez fort. C'est vrai que vous le soulignez, vous Jacques, dans votre travail, qu'il y a toujours cette tension entre ce que a posteriori vous allez trouver finalement comme réussi et bien posé tel que c'était sorti, et cette chose qui est sortie de vous sans que vous ayez fait cet effort. Et est-ce que voilà, vous ne retrouvez pas tous les deux sur ça, c'est-à-dire des artistes qui arrivent à faire énormément de choses dans la pulsion et qui redécouvrent, réintellectualisent ou réesthétisent ce premier jet?
C'est clair que on a d'abord, enfin moi dans l'ordre, je suis d'abord, je vais donner libre cours à ce qui me vient quoi, et c'est que après, en discutant avec autrui, que je vais en fait me rendre compte que c'est un concept qui est peut-être que j'ai pas inventé, peut-être qu'il y a d'autres gens à d'autres moments, à d'autres endroits sur la planète qui ont eu cette même intuition, et peut-être que ça s'inscrit dans quelque chose, mais c'est vrai qu'à la base c'est complètement, je pense, accidentel. Et puis, paradoxalement, je sais que lorsque je compose, j'ai du mal à partir de rien. C'est-à-dire, j'aime bien, comme si je faisais la musique d'un film qui n'existe pas encore. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Je vais me dire, tiens, cette musique, elle pourrait servir à ça. Et alors, si par exemple, je me dis, j'aimerais une musique pour le jour du départ en vacances. Je vais mettre un brief à moi-même, tu vois. Et c'est comme ça que je vais réussir à ne pas me perdre et réussir justement dans ce contexte-là à avoir des accidents qui sont du coup des sous-accidents.
Pas mieux, exactement. Pareil, c'est vraiment toutes sortes de situations. Tiens, qu'est-ce que j'écouterais? Quelle est la chanson parfaite pour un barbecue? J'ai envie de la faire. Non, mais c'est vrai, pour partir en vacances ou dans les embouteillages, etc. Et c'est ça qui rend notre métier merveilleux, c'est d'inventer des petits univers comme ça ou de... Mais c'est vrai que sinon, entre les instruments et moi, il n'y a que de l'air. Il faut que j'ai quand même une motivation, une pulsion.
Mais pourtant, toute cette réalité qui vous inspire, vous êtes un peu des chasseurs-cueilleurs, chacun à votre façon, vous la transformez, et j'ai pas pu m'empêcher, puisque le jour des vacances approche pour l'équipe de ping-pong, aller retrouver mon cher Baudrillard, qui a travaillé sur ces questions de comment on s'empare de la réalité pour la transformer, et notamment à l'heure du virtuel, à l'heure des ordinateurs, mais aussi Benjamin Biolay, non content d'avoir une guitare ou d'autres instruments en main, vous aimez arranger les choses, et donc les faire passer dans des ordinateurs, dans des filtres. Est-ce que vous avez l'idée que vous recréez une nouvelle réalité, ou que, au contraire, vous essayez de toucher à la vraie réalité, si elle existe, elle n'existe pas pour Baudrillard.
Mon postulat de base, quand je fais de la musique, quand je fabrique un disque, c'est juste de faire un disque que j'aimerais bien écouter, mais qui n'existe pas encore. Qui est pas forcément le meilleur, mais qui est un disque cool, comme je dis, pour un barbecue, pour une nuit d'amour, pour tout ce que vous voulez.
Donc vous créez un monde meilleur.
Un disque que j'ai pas.
Un monde parallèle.
Mais vous avez aussi ce rapport de multimédium, je trouve. C'est-à-dire que on n'a pas encore vu le film de Benjamin Biolay, et pourtant il y a quelque chose qui nous dit avec certitude que vous allez finir par réaliser un film.
Ouais, c'est sûr, si j'en ai la chance.
Les scénarios dans les tiroirs, paraît-il.
Ouais, mais faut avoir plus que ça dans les tiroirs.
Jacques, dites-vous de la musique transversale. Pourquoi transversale? Parce que c'est pour faire danser ensemble les normaux et les bizarres. Je veux savoir comment est-ce qu'on fait danser les bizarres.
Alors comment est-ce qu'on fait alors derrière le mot normaux et bizarres, je dirais qu'il y a les gens mainstream et les gens plus qui sont dans une recherche expérimentale. Si on veut diviser, si on veut faire des généralités, hein, parce que tout le monde est un peu des deux. Je dirais que c'est comme le cheval de Troie, c'est-à-dire que tu vas faire un morceau qui respecte un certain nombre de codes. Et en fait, dans tous les aspects des morceaux, donc dans les harmonies, dans les rythmes, dans les arrangements, tu peux essayer de glisser quelque chose de complètement inapproprié, tu vois, qui va en fait satisfaire le besoin un peu adolescent et un peu comment dire, de réaction, tu vois, pas réac, mais ça va satisfaire à ce besoin-là, à l'état d'esprit que j'ai à l'intérieur de moi-même, tu vois, qui est contre le mainstream, quoi, qui a envie de montrer subversion. Qu'on peut faire, voilà, quelque chose de subversif.
Vous parlez des autres groupes parfois comme des Pokémon.
Ouais. Alors ça, c'est une autre chose, parce que, bah, les Pokémon, moi, c'est ma génération. Je regardais Pokémon, et c'est vrai que Pokémon, c'est des petits monstres qui font, en fait, que deux, trois des attaques, quoi, qui font un peu la même chose, et qui font que dire leur prénom. Et donc, c'est vrai que, il y a beaucoup de groupes, je les vois, c'est un peu, genre, on les invite, on leur dit, bah, vas-y, joue tes trois attaques, quoi, tes trois tubes, et puis dis ton prénom, et puis, bah, casse-toi, quoi. Et, effectivement, il y a certains groupes, j'ai l'impression qu'on a affaire à des Pokémon.
Alors, vous avez méchant, un exemple de relou.
Vous avez Benjamin un prénom, Biolay, en fait, de la place. C'est méchant. Vous êtes d'accord?
Évidemment que je suis d'accord.
C'est un peu, tu vois, c'est la place du troubadour, en fait, mais dans une époque où il y a peut-être moins de noblesse que le troubadour, parce que le troubadour, il avait quelque chose à raconter du village d'à côté, alors que c'est bon, on a internet, quoi, on sait ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment plus que le musicien qui arrive et qui vient remplir la case, tu vois, qui vient aérer, en fait, des propos plus connectés avec le monde solide.
Alors, sans vouloir vous mettre dans la case du musicien qui va aérer les propos
dans
ce monde solide, vous allez pouvoir faire preuve d'humilité active, comme vous décrivez vos performances sur scène. Jacques, c'est parti, dans la radio sur France Culture.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Des gens qui sont intelligents, mais moi j'ai pas d'avis, parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, mais moi je n'existais plus. Ça c'est pas important, non. J'ai entendu ta voix dans la radio. J'ai entendu ta voix dans la radio. Elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon.
La radio.
Et dans le futur.
C'était la radio dans la radio.
Mise en abîme, Jacques plus Jacques égale Jacques. Et c'était donc en effet la radio dans la radio.
Ah non, Jacques plus Jacques égale Michel. Non. Benoît,
mais... Ça se défend.
C'est le tube de l'été assumé. J'adore. De Ping Pong dans la radio. On joue tous la même chanson, mais pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon.
Ping Pong. Ping Pong.
Et c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous trois, enfin à tous autant que vous êtes à l'intérieur de vos têtes et en dehors. Oh. Merci Jacques, Benjamin Biolay, Sébastien Marnier.
Je ne peux pas comparer, mais tu connais Oui Oui.
Non.
Ah, faut que t'écoutes.
Ah, c'est le groupe de Gondry.
De Gondry et de Étienne Jarry qui est un
fantastique. Ah,
oui. Alors avant d'écouter Oui Oui sur les conseils de Benjamin Biolay, on peut écouter Palermo Hollywood, votre dernier album, Benjamin Biolay. Vous serez d'ailleurs en concert à la salle Playel à Paris les 23, 24 et 25 septembre prochains. Quant à vous, Jacques, dans la radio et l'EP, le court album intense et puissant, tout est magnifique. C'est sous le label Pain Surprise et Irréprochable, dont vous êtes le réalisateur mais aussi le scénariste Sébastien Marnier, avec à l'affiche Marina Foïs, Jérémy Elkaïm, Joséphine Japy et donc Benjamin Biolay dans un rôle ténébreux comme on aime, en salle le 6 juillet et ce dimanche soir au Festival de La Rochelle devant plus de 1000 personnes qu'on espère un tout petit peu moins dangereuses et inquiétantes et angoissantes.
L'autre
dimanche, dans une semaine.
Voilà.
Il faut prendre ses billets dès maintenant, se préparer, prendre le TGV et hop, on est à La Rochelle.
1000 personnes.
Le ping-pong est une petite...
2000 ?
3000.
3000 personnes. Une petite musique radiophonique pour les normaux et les bizarres qui se composent en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jacques Azubert et Jean-Guilain Meige.
Mais foutre, comme disait le père Duchesne, de notre beau lendemain, qu'en sera-t-il, Mathilde ?
Demain, du sexe sur la table de ping-pong pour finir cette première saison avec Anaïs Carayon et Jocelyn Borda, créateurs de la revue Intello Porno La Chose. Et maître Emmanuel Pierrat qui nous contera le combat de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert contre la censure et les pudibons.